Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Squarespace comme sponsor du podcast? D'abord parce que je sais qu'ici vous êtes très nombreux à entreprendre, avoir un podcast ou un projet qui nécessite d'être valorisé sur un site web. Et que Squarespace propose des outils vraiment simples d'utilisation pour avoir un site beau, propre et efficace en un minimum de temps. Quelques exemples de fonctionnalités, des templates de sites web personnalisables et adaptatifs pour créer des sites beaux et design en un temps record. L'outil email, le nerf de la guerre pour développer votre activité et communiquer avec vos clients. Ou encore leur outil SEO intégré pour émerger sur Google sans être un produit métier. Alors si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. N'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agneau et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast. Et en l'occurrence, il s'agit d'une leçon. Vous savez, ces épisodes où j'essaye de répondre autant aussi bien que je peux à une question de l'un ou l'autre d'entre vous. Et oui, ce sont vous les auditeurs qui posez ces questions. Et alors, en l'occurrence, aujourd'hui, j'étais en live avec le Japon, figurez-vous, avec Kyoto. J'étais avec Clémentine qui m'a posé une question pas facile. Elle est créatrice de marque et elle se pose la question de commencer à recruter, notamment commencer par un stagiaire. Et globalement, sa crainte, et elle est hyper légitime, vous allez voir dans cet épisode, c'est qu'elle se dit, j'ai envie de recruter sur des sujets comme le marketing, le compte Instagram, les newsletters, mes textes, tout ce qui fait l'ADN de ma marque, mais j'ai peur du coup de dénaturer ma marque, quoi. Donc comment faire pour recruter quand on veut déléguer des choses qui sont des choses très personnelles dans notre business? J'ai trouvé que c'était une super question, on ne l'avait jamais posée, c'est pas une question facile et la réponse n'est pas facile non plus. J'ai essayé de dire la vérité à Clémentine, je voulais pas lui vendre de la poudre aux yeux, au contraire, qu'elle voit que c'est pas facile justement de déléguer ces sujets-là qui sont des sujets en général très incarnés, mais c'est quand même possible de le faire. Affaire à suivre, vous en saurez plus dans l'épisode, et donc je laisse place à cette conversation avec Clémentine sur cette nouvelle leçon. Salut Clémentine.
Bonjour Pauline.
Eh ben, je suis enchantée d'être avec toi. Merci d'avoir postulé à la leçon.
Merci. Merci de me recevoir.
Écoute Clémentine, je pense que tu connais la tradition ici. Je veux bien que tu te présentes, que tu me dises qui tu es, d'où tu viens, et puis ensuite, qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui?
D'accord. Alors, je suis créatrice de sacs. Je suis basée à Kyoto et en fait, j'utilise des tissus traditionnels japonais faits de matière en soie ou de matière assez noble que je transforme pour en faire des pièces uniques et en petites quantités. Et
je fais. Mais attends, tu es à Kyoto toi-même là maintenant?
Oui.
On ne pense pas.
Oui.
Mais du coup, il est très tard chez toi, très très tard.
Oui, il est plutôt très tôt le matin.
Oui, oui. Eh ben écoute, je suis désolée du coup de te
non,
de t'embêter de bon matin.
Non, je connaissais l'horaire, donc il n'y a pas de souci. Je suis très contente d'être là, donc ça me va. Et du coup, oui, donc je fais ça depuis 2016 de façon professionnelle. Et je suis un peu artisane, je fais mes pièces moi-même, mais je m'occupe aussi de la vente, de la communication, etc. Donc ça fait quand même pas mal d'années que je travaille seule. Je fais des collaborations, des fois avec des gens, bien sûr. Mais en général, c'est vraiment quelque chose que je fais seule. Je reçois aussi des gens parfois pour faire des ateliers. Je propose des ateliers où les gens viennent pour apprendre à faire leur sac plutôt que d'acheter une pièce. Ils apprennent de zéro, ils apprennent à coudre, etc.
Ouais.
Et je propose aussi des services de commandes personnalisées. Donc ça, c'est un peu tout ce que je propose pour donner un peu le contexte. Et ça m'arrive de faire des conférences en université et je reçois souvent, surtout depuis quelques années, là, des demandes d'étudiants qui souhaiteraient faire des stages chez moi. Et dans l'idée, moi j'ai étudié la mode, le design, donc j'ai toujours pensé que le jour où je voudrais m'agrandir et prendre quelqu'un, le fait de prendre des stagiaires, ce serait une première étape, en fait, pour ça, et que ce serait plutôt pour la confection que je me ferais assister. Mais il se trouve que depuis des années, je reçois des demandes d'étudiants qui veulent faire des stages en marketing. Donc, c'est pas forcément ma spécialité, c'est pas ce que j'ai étudié, même si je le fais quand même pour ma marque depuis des années. Et en fait, je me dis que c'est un peu bête de souvent refuser ces demandes parce que je pense que j'ai pas le temps ou que je sais pas trop comment organiser ça. Et là, j'ai envie d'accepter quelqu'un dans mon équipe. Et du coup, j'ai une crainte un peu par rapport au fait que, comme je fais ma communication vraiment seule et que j'ai un rapport assez proche avec mes clients, puisque je leur parle directement en fait via mes réseaux sociaux, ma newsletter ou même par email.
Ouais.
Je me demande dans un premier temps déjà, est-ce que je suis pas légitime, mais est-ce que je suis capable d'accueillir quelqu'un dans mon équipe? En lui expliquant correctement ce que je fais, sachant que je connais pas forcément les termes des stratégies marketing que j'utilise, puisque je fais plutôt un peu au feeling, si on peut dire. Et ensuite, dans un deuxième temps, si ça se passe bien avec les stagiaires et que je souhaite leur laisser plus de liberté, pour moi aussi que ça me permette de gagner du temps, est-ce que je sais que je prends le risque aussi peut-être de, comment dire, que ma communication perde son originalité ou que je perde un peu cette touche personnelle que j'ai, ce rapport que j'ai avec les clients. Donc, c'est un peu ça, mes craintes d'accueillir des stagiaires. Donc, je voulais savoir si tu avais peut-être des conseils pour moi.
Bah, écoute, oui, mais déjà, peut-être une question. Est-ce que tu ressens le besoin? Parce que je comprends qu'eux aient envie de venir faire des stages chez toi. Mm-hmm. Mais toi, en fait, tu penses que ça t'aiderait? Tu penses qu'il y aurait des choses que tu pourrais déléguer? Tu penses que ça te ferait gagner du temps? Ou c'est presque plus par contrainte, en fait, finalement, que tu envisages de prendre ces stagiaires?
Non, en fait, je pense qu'au début, c'était plutôt une contrainte. C'est pour ça que je refusais les demandes. Mais récemment, je me rends compte en fait que mon entreprise, elle continue à se développer. En fait, j'ai quand même de plus en plus de demandes. Et comme je fais ça seule, ça peut grossir que jusqu'à un certain point. Et il y a bien des domaines dans lesquels il va falloir que je commence à déléguer. Et je me suis toujours dit que la communication, le marketing, c'était moins facile. Mais en fait, là, je suis en train de me dire que pourquoi pas changer un peu de point de vue et essayer, surtout qu'en fait, c'est pas trop risqué peut-être d'essayer avec un stagiaire plutôt que de chercher quelqu'un qui veuille travailler pour moi. Donc, c'est en fait une bonne occasion pour ça. Donc non, j'aimerais vraiment tenter l'expérience pour voir si c'est, dans mon idée, c'est possible de déléguer des choses, je sais pas, pour la création de contenu ou pour des stratégies marketing, etc.
Ça l'est, je te le dis tout de suite, c'est pas facile, et notamment c'est pas facile, et là tu touches quelque chose de très juste du doigt, qui est que quand tu es la créatrice d'une marque ou le créateur d'une marque, finalement c'est beaucoup ton âme ou toi quoi que tu vas vendre, si je puis dire, au sens où c'est ta personnalité qui va être reflétée sur tes réseaux sociaux, dans ta newsletter, c'est ton style, c'est ta plume, c'est tes émotions, etc. Et donc, c'est sûr que de donner une tâche à quelqu'un qui n'est pas toi comporte un risque, comme tu l'as très bien dit, qui est que ça dénature le propos, que ça dénature un peu la marque. Et donc, c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la délégation. Tu vas être obligé, si tu le fais, de former la personne. Peut-être déjà, une première étape, c'est de lui déléguer un certain nombre de choses où tu sens qu'en fait, t'as pas besoin de mettre des émotions. Je te donne un exemple. Une newsletter que t'écris parce que tu fais un lancement produit, par exemple, où vraiment t'expliques ton processus créatif, tu mets ton âme sur le papier, tu racontes tes doutes, ce qui s'est passé, etc., pourquoi t'as fait tel et tel choix. Ça, c'est sûr que ça va pas être tout de suite facile à déléguer. En revanche, si jamais il s'agit de tâches un petit peu plus opérationnelles, du style répondre à un client qui a des questions sur un SAV, par exemple, ou qui te demande est-ce que là, je peux être livré en temps et pour telle date, là, si tu veux, c'est un peu plus rationnel, on va dire, et donc que tu formes cette personne à répondre et du coup que ça te fasse gagner du temps, ça, c'est déjà tout à fait possible. Donc, c'est un petit peu, on peut se dire, est-ce que c'est du marketing ou pas, mais oui, c'est quand même une forme de marketing malgré tout, et donc, je pense que déjà, une première étape, ça serait que toi, tu clarifies quelles sont les tâches les plus simples que tu peux déjà donner à ce stagiaire pour lui déléguer, qui sont pas que c'est des tâches simples, si tu veux, au niveau facilité, mais que c'est des tâches où tu as moins besoin, dans un premier temps, que cette personne comprenne parfaitement ta marque, qui tu es, tes valeurs, etc. Parce que ça, c'est sûr que ça prend un petit peu de temps avant d'être transmis, quoi. Donc, ça, je pense qu'il y a un petit travail, tu vois, de structuration pour se dire, OK, qu'est-ce que je délègue? Parce que dis-toi que tout ce temps-là que tu vas déléguer, bah, c'est du temps que toi, tu pourras passer à faire plus de sacs, plus de contenu de qualité, etc. Donc ça, déjà, ça a beaucoup de valeur. Je comprends qu'ils veulent faire du marketing, mais toi, il faut aussi que tu répondes à tes besoins. Et donc, bah, déjà, dans un premier temps, que tu délègues toutes ces tâches-là, où franchement, ça pourrait complètement ne pas être toi qui répond à ces messages. Est-ce que déjà, sur ce point, tu me suis sur ce premier point?
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui.
Donc ça, je pense que c'est déjà la première chose. Et puis la deuxième, c'est effectivement, je pense que tu pourras tester à un moment donné, mais je pense que tu le fais seulement dans un deuxième temps, quand la personne en place a déjà maîtrisé, si tu veux, les premières tâches qui sont des tâches un peu plus objectives, que là, tu commences à lui dire, ben, dans un deuxième temps, je t'apprendrai à mes côtés, à répondre à des messages qui sont des messages plus personnels, ou moi à faire des posts qui sont plus personnels, ou à sélectionner des photos, etc. Et pour ça, je trouve que la meilleure manière de faire, c'est que la personne t'observe énormément. C'est-à-dire que au démarrage, tu lui fais faire des tâches sur lesquelles tu lui as formé, qui sont des tâches simples, comme je disais, qui sont plus objectives, genre répondre à ça du service client, etc. Mais en parallèle de ça, à chaque fois que toi t'envoies un mail, à chaque fois que toi tu l'écris un mail, à chaque fois que tu fais, tu vois, un post sur Instagram, quelque chose comme ça, cette personne observe ce que tu fais. Tu peux lui expliquer pourquoi t'as pris telle ou telle décision, par exemple, pour qu'elle, tu vois, elle devienne tellement proche de toi, qu'elles comprennent tellement ce que tu fais, qu'au bout d'un moment, tes raisonnements vont devenir des raisonnements qui seront aussi naturels pour elles. Ça va pas arriver tout de suite, mais avec un peu de temps, ça dépend du niveau de complexité de ce que tu fais, franchement, ça peut arriver, tu vois, juste parce que par pure observation, sans qu'elle forcément le fasse, elle va finir par t'être, tu vois, un peu ton ombre, quoi, d'une certaine manière. Elle va te shadow. D'ailleurs, il y a un terme aux États-Unis, souvent ils disent, des gens emploient des shadows, c'est finalement quelqu'un qui te suit dans tout ce que tu fais, qui t'observe. Et au bout d'un moment, il t'observe tellement qu'en fait, il sait ce que tu aurais fait, quoi, d'une certaine manière. Parce que là, c'est ce qu'on lui demande. On va pas lui demander de réinventer la roue. On lui demande de faire ce que toi, tu sais faire. Et donc, pour ça, bah, il faut qu'elle t'observe pour pouvoir savoir qu'est-ce que tu aurais fait. Et donc, une fois que tu as fait ça pendant un certain laps de temps, au bout d'un moment, tu peux commencer à la tester. Et donc, à lui dire, bah là, par exemple, j'aimerais que tu me fasses une proposition pour le post Instagram, on va parler telle et telle chose. Fais-le, imagine que t'es à ma place, fais-le comme si moi je l'aurais fait. Et donc là, tu vois, par exemple, sa première proposition. Il y aura certainement des choses qui te conviendront pas parce que c'est pas exactement la manière dont tu l'aurais fait. Et tu lui expliques. Tu dis, bah là, tu vois, par exemple, t'as utilisé tel et tel mot. Je trouve que c'est un peu trop formel. Et du coup, comme c'est un peu trop formel, ben, en fait, je pense que ça crée de la distance vis-à-vis de mon audience. C'est pas mon style habituellement. Là, j'invente, hein, bien sûr, ce que je raconte, c'est pas ce que je ferais habituellement, et du coup moi tu vois je l'aurais tourné plutôt comme ça, et tu lui expliques. Donc c'est clair qu'au début ça va te prendre un petit peu de temps, parce que du coup il va falloir que tu contextualises et que t'expliques beaucoup. Mais du coup tu lui expliques ça, elle revoit sa copie jusqu'à ce qu'elle y arrive. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment tu vas te rendre compte que à force de feedback et à force d'observation, cette personne va être capable de faire quelque chose qui sera peut-être pas exactement ce que t'aurais fait, mais qui sera quasiment ce que t'aurais fait. Et ça dépend des gens, mais ça peut être assez rapide en réalité. Et une fois que tu t'es rendu compte de ça, que en la testant à chaque fois sur ses posts Instagram, sur ses newsletters, bah tu te rends compte qu'en fait elle se rapproche de plus en plus. Là tu lui dis bah ok, c'est super. Maintenant tu sais les faire, donc tu peux lui confier une tâche par exemple qui est de faire les posts Instagram, je dis n'importe quoi, ou les stories Instagram, et tu lui confies cette tâche là. Et quand tu fais ça, tu continues quand même à contrôler, c'est-à-dire que tu lui as confié la tâche, mais tu continues à surveiller d'une certaine manière que le niveau de qualité, le niveau d'exigence te correspond. Et donc, tu vois, t'abandonnes pas le truc en mode, je te file Instagram, puis maintenant je passe à autre chose. Parce que ça, c'est un risque qui arrive quand on fait de la délégation. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance, quand quelqu'un a fait une chose une fois bien, à dire, ah bah, c'est bon, elle maîtrise, je lui donne. Mais là, en fait, t'en sais rien. Peut-être qu'elle l'a fait une fois bien, mais que c'était un peu un coup de bol, que là, elle était inspirée, on sait pas. Et donc, ton rôle de manager, parce qu'en fait, c'est de ça qu'on parle, eh bien, ça va être de t'assurer que dans la durée, cette personne est capable de conserver le bon niveau d'exigence. Et quand je dis exigence, c'est pas juste qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, etc. C'est de compréhension de ta marque, de style, qui fasse que ça te correspond et que ça dénature pas ton propos. Et donc, si tu fais ça dans le temps, tu vas te rendre compte que cette personne, au bout d'un moment, ça sera un peu comme un deuxième toi. Et ça, c'est assez génial quand ça arrive. Parce que du coup, en fait, elle va pouvoir faire des posts Instagram, faire des stories, faire des newsletters ou... D'une certaine manière, c'est pas vraiment que tu mens, c'est que tu l'auras tellement bien formée qu'en fait, elle écrira littéralement des trucs comme si tu les avais écrits toi, tu vois. Et donc, en fait, c'est juste qu'elle se fait ton porte-parole et donc ça te fait gagner du temps. Ça, c'est quelque chose qui est possible et ça arrive. Et moi, je l'ai déjà fait chez Gemio, par exemple. C'est plus moi qui écris les textes alors que pendant des années, j'ai écrit tous les textes. C'est plus moi qui gère le compte Instagram alors que pendant des années, j'ai géré le compte Instagram. Parce qu'en fait, j'ai formé des gens de telle sorte que J'essaye de faire en sorte, si tu veux, qu'il le fasse comme moi je l'aurais fait. C'est pas toujours facile, mais dans le temps ça peut durer. Et donc ça c'est pour te dire qu'en fait c'est possible. Mais je veux pas non plus te mentir, c'est pas simple parce que ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'accompagnement. Une autre technique de management, c'est de pas former la personne, enfin entre guillemets, pas former de toi, si t'avais aucune idée ou si tu n'es pas, par exemple, à ton propre style, tu dis, bah, gère mes réseaux sociaux et tu pourrais contrôler un peu, mais t'aurais pas besoin de passer par toute cette longue étape, tu vois, de formation. Là, ce que j'entends, c'est que tu me dis, moi, mon enjeu, c'est qu'en fait, comme c'est moi qui le gère, que mon audience me connaît, que mon audience aime mon style, ou en tout cas, c'est ça qui participe à la plateforme de ma marque, bah, je ne veux pas changer de style et donc je suis obligée de créer cette continuité. Et donc, dans un cadre comme celui-ci, t'es obligée de passer par cette étape de formation.
D'accord.
Du coup, ça te donne peut-être moins envie.
Non, pas du tout. En fait, en même temps, je me rends compte que une autre crainte aussi. Enfin, c'est pas vraiment une crainte, mais je sais que je me disais bien aussi que ça me prendrait du temps, faudrait dégager du temps, surtout au début, pour qu'après devienne, pour qu'après ça puisse me permettre de me libérer du temps. Il faut d'abord en consacrer beaucoup.
Ouais.
Mais c'est vrai que, en fait, j'ai pas mal de clients quand même. J'ai une bonne partie de ma clientèle qui est, qui est fidèle et qui revient. Donc je sais aussi que c'est précieux justement de garder.
T'as raison.
De garder ma communication plus ou moins comme elle est. Après, je suis aussi ouverte à, si ça se trouve, cette personne, elle aurait des idées auxquelles je pense pas. Elle sera forcément plus jeune, plus au fait des nouvelles technologies. Donc je pense qu'il y a aussi du bon pour moi de.
Bien sûr. C'est sûr que ça, c'est un équilibre qui est pas facile dans le management, qui est que à la fois, il faut pouvoir prendre les bonnes idées et les accepter, et c'est aussi plus motivant pour la personne avec laquelle tu collabores. Mais en même temps, il y a un certain nombre de choses, et notamment l'identité de ta marque. Ça, tu dois le transmettre, tu vois. Donc, c'est cet équilibre qui n'est pas facile à trouver entre je prends ce que la personne m'apporte de différent et qui est quelque chose qui va m'enrichir, et en même temps, sur les sujets qui sont les valeurs de l'entreprise, les grands fondamentaux. Non, en fait, ça, c'est des choses où c'est plutôt toi qui vas transmettre. Parce que c'est toi qui dois former la personne. Et c'est pour ça que je te dis, pour moi, la bonne technique, c'est passer par une grosse phase d'observation qui peut être un peu frustrante pour les stagiaires, mais qui est assez nécessaire parce que sinon, cette personne va juste faire les choses à sa manière. Mmh. Mais sa manière n'est pas la manière de ta marque, tu vois. Et sur des sujets assez touchy, comme le style, comme une sélection de photos, surtout ce qui est un peu de la direction artistique, en fait, sauf erreur de ma part, on demande pas à réinventer la roue, on demande à faire ce que tu sais déjà bien faire. Elle pourra te proposer des idées, tu vois, d'activation marketing, te dire, j'aimerais faire une collab avec tel artiste, je sais pas, je trouve que ça serait trop cool de faire une newsletter de plus par semaine. Bien sûr, des bonnes idées, elle pourra en avoir. Mais par contre, mon conseil, c'est que sur l'essence, ce qui fait l'essence de ta marque, ta direction artistique, comme c'est très lié à qui tu es, d'après ce que je comprends, et que c'est quelque chose qui a une forme d'intégrité, du coup, parce que c'est quelque chose de très sincère, c'est assez dangereux, honnêtement, de commencer à demander à d'autres personnes d'intervenir dessus. Parce que ça va brouiller le message vis-à-vis de tes clients. Alors que si jamais ça reste quelque chose qui est très proche de toi, eh bien là, en fait, tu auras le meilleur des deux mondes parce que tu auras quelqu'un pour t'aider et qui pourra te faire quand même gagner du temps sur plein de choses. Mais en même temps, tu garderas la même intégrité de marque. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, de très important. Mais donc c'est possible et tu as tout à fait raison de le souligner et c'est ce que je te disais, c'est quelque chose qui prend du temps. En fait, je n'arrête pas de te faire peur avec cette leçon, donc je suis désolée. Je veux juste aussi, tu vois, te faire voir la réalité, c'est-à-dire que quand on recrute quelqu'un et notamment un stagiaire qui globalement, faut quand même se dire les choses telles qu'elles sont, et quelqu'un qui ne connaît rien à ta boîte, qui est une junior, qui est assez incompétent quoi de manière générale parce que en fait, il démarre dans la vie professionnelle. Il peut avoir des bonnes idées, mais c'est pas quelqu'un, si tu veux, qui va t'apprendre quoi que ce soit, a priori. Il peut t'apporter des idées, mais il va pas t'apprendre. C'est toi qui va lui apprendre. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un stage et que c'est pas un job. Et même, si on est honnête avec nous-mêmes, deux secondes, quelqu'un qui démarre dans la vie professionnelle, même si c'est un premier job, en général, n'apprend rien à l'entreprise, ou c'est très rare. C'est, en général, l'entreprise qui a ce rôle, justement, de formation. Et moi, je suis assez convaincue que l'entreprise, c'est d'ailleurs la meilleure école de la vie, en réalité. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien choisir ses managers. Mais en gros, tout ça pour te dire que c'est toi qui va lui apprendre. Et que du coup, ça va te prendre du temps, parce qu'en fait, tu vas un peu jouer le rôle du prof, et donc tu vas devoir en permanence passer du temps à faire les choses au début, et en plus à lui expliquer. Donc c'est sûr que ça va te prendre plus de temps. Mais par contre, là où c'est merveilleux, c'est qu'il se passe un truc à un moment donné, c'est plus ou moins long en fonction des cas, qui est que bah, tout d'un coup, la personne a capté, elle a compris, et là, tu peux commencer à lui déléguer. Et là, tout d'un coup, ce qui te prenait 10 tonnes de temps va t'en faire, au contraire, gagner. Parce que il y aura plein de tâches que tu avais l'habitude de faire, que tu pourras lui déléguer, et tu n'auras qu'à contrôler au début régulièrement et avec de moins en moins de régularité dans le temps.
En fait, en plus, en t'écoutant parler, je me rends compte que du coup, mes craintes, bon, qui se révèlent être avoir des raisons, mais il vaudrait mieux commencer le plus tôt possible, en fait, si ça va prendre du temps pour trouver la bonne personne et pour avoir le temps de bien la former pour qu'elle soit efficace un jour à m'aider à gagner du temps, en fait.
Ouais, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que même si t'as des gens qui te demandent à faire du marketing dans une marque comme la tienne, c'est-à-dire encore une marque qui est très incarnée, si j'ai bien compris, où il y a vraiment un côté assez personnel, bah c'est pas que c'est plus difficile, mais c'est sûr que c'est quelque chose où il faut que tu sois plus vigilante, t'as raison. Et donc c'est pour ça que pour quand même que ces personnes puissent t'apporter la valeur, qu'elles te soient utiles et aussi qu'elles apprennent, hein, parce que du coup elles vont apprendre des choses aussi. Tu peux peut-être leur demander, c'est ce que je te disais au début, de faire pas mal d'autres tâches qui sont à mi-chemin entre le marketing et d'autres sujets, comme par exemple des opérations, du service client, des choses comme ça qui vont les former, les structurer, mais qui sont moins touchy, si tu veux, pour toi, où il y a moins besoin que ça soit dans un, en fait, qu'il y ait moins de besoin de formation longue pour que la personne comprenne profondément, si tu veux, ce que tu souhaites faire. Parce que typiquement, s'il s'agit, je sais pas, de répondre à un mail d'un service client, bah en fait, oui, il y aura peut-être un style que tu peux donner, si tu veux, à ton type de mail, mais c'est peut-être moins, tu vois, incarné et personnel que si jamais tu dois faire un post une fois de plus sur la création de ta nouvelle collection. Donc c'est pour ça que je dis qu'une bonne manière de commencer, à mon avis, ça serait de commencer à lister les tâches qui sont des tâches que tu penses que tu peux déléguer assez facilement parce qu'il y a peu besoin de formation. Donc comme ça, tu occupes déjà cette personne comme ça. Le reste du temps, tu la formes en fait, notamment via de l'observation, et peu à peu, en lui faisant faire des tâches, en lui faisant beaucoup de feedback, jusqu'à ce que la tâche soit bien exécutée. Et quand elle est parfaitement exécutée, comme tu l'aurais fait toi, ou même peut-être parfois mieux que ce que tu aurais fait, et ben là tu peux commencer à relâcher ton contrôle. Parce que il y a souvent une idée reçue qui est que on recrute des gens et que ces gens nous apportent de la compétence. Et c'est vrai, mais c'est vrai quand ce sont des personnes qui sont déjà formées et souvent sur des domaines techniques ou sur des domaines, si tu veux, qui sont objectifs. Tu recrutes quelqu'un pour créer ton site internet, un développeur, là, il va t'apporter de la compétence. Et donc, tu achètes, si je puis dire, de la compétence. C'est tout à fait vrai. Mais sur la marque, sur ta marque, c'est toi, en fait, qui a créé ta compétence. C'est toi qui connais. Donc, imaginez que tu vas recruter quelqu'un qui va t'apprendre à gérer ta marque. Je te le dis, c'est une erreur. Et je le dis à toi, mais bien sûr, je le dis à toutes les personnes qui nous écoutent, qui souvent me posent cette question et qui, du coup, sont dépités quand ils recrutent quelqu'un et se rendent compte qu'en fait, et souvent, c'est d'ailleurs quelque chose qui arrive assez souvent, recrutent quelqu'un en se disant « moi, je suis pas très bonne en marketing, je sais pas faire », et voilà. Mais en fait, si t'es bonne en marketing, prends confiance en toi, parce que si tu n'étais pas bonne en marketing, tu n'aurais pas réussi à créer une marque avec des clients. Tout ce que tu fais, c'est du marketing. Et c'est pas parce que t'as pas fait HEC ou t'as pas fait une école de commerce que tu sais pas faire du marketing. C'est peut-être instinctif dans ton cas, mais peu importe, ça a l'air de bien marcher, et tant mieux, profites-en. Et justement, apporter, si tu veux, quelque chose qui est quelque chose, on va dire, de plus standard, qui viendrait d'une école de commerce, c'est pas ça qui va marcher pour ta marque. Sinon, en fait, enfin, d'ailleurs, la preuve, ça n'aurait pas... C'est pas comme ça que ta marque fonctionne. Donc là-dessus, je pense qu'il faut se ranger à une réalité qui est parfois désagréable à entendre. Et moi-même, avec Gémio, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Sur des sujets de marque, de marketing, de direction artistique, il faut, c'est ton âme. Et donc, c'est toi qui dois former la personne pour qu'elle fasse parce que toi, en tant que fondatrice, t'aurais envie de faire. Par contre, sur plein d'autres sujets, tu peux acheter de la compétence parce que c'est des choses qui sont plus reproductibles. Des achats, du service client, des opérations, de la finance. Oui, parce que finalement, c'est assez interchangeable entre ta marque, certainement, et une autre marque. Mais par contre, sur la partie purement marketing, et dans le mot marketing, il y a le mot marque, là, comme c'est très incarné d'après ce que je comprends, c'est beaucoup toi, en fait, qui dois former les gens. Et donc, c'est très bien de prendre un stagiaire, parce que comme ça, tu vas pouvoir le former tôt. Mais du coup, il faut pas que tu perdes de vue que tu vas devoir le former, quoi. C'est pas lui qui va t'apporter de la compétence.
D'accord. Non, mais ça m'aide beaucoup d'entendre ce que tu me dis, merci.
Est-ce que tu es désespérée à ce stade, Clémentine?
Non, pas du tout. Ben, en fait, pour te dire, je pensais que le temps serait un facteur. Comme tu as beaucoup dit le mot temps, je pensais que le temps, ça serait quand même quelque chose d'important. Et en fait, je me dis qu'il faudrait que je choisisse le bon moment pour accueillir cette personne, qu'il ne soit pas un moment... Parce que moi, j'avais dans l'idée de l'accueillir dans un moment justement où j'étais occupée, où j'aurais plein de choses à lui montrer. Mais c'est peut-être mieux que ce soit un moment où je sois moins occupée pour avoir... Parce qu'il y a quand même des saisons où je suis moins occupée, mmh. où j'ai plus le temps de que cette personne soit à mes côtés et que je puisse prendre du temps pour lui montrer ce que je fais. Et puis, d'un autre côté, ça me rassure aussi ce que tu me dis, parce que je pense qu'il y a des fois, je me demande aussi souvent combien il y a d'ego dans les décisions qu'on prend quand on a comme ça son entreprise et qu'on crée quelque chose de créatif depuis des années. Donc ça fait le fait que ça fasse sens aussi pour toi que je garde quand même que j'ai peur de perdre ce que j'apporte dans ma communication, etc.
En fait, moi je pense que t'as raison de vouloir un jour le déléguer parce que c'est possible, mais je veux juste t'alerter sur le fait que c'est pas un sujet simple à déléguer et que sur les sujets de marque et notamment des marques incarnées, il y a un énorme travail, sincèrement, de formation, et même pas bon, mais de transmission, littéralement, de transmission de qui tu es. Et tout le but, c'est que la personne que tu vas recruter ou les personnes que tu vas recruter, en fait, deviennent un peu tes sosies, quoi, tu vois, d'une certaine manière. Et c'est ça qui va faire la magie de ta marque. Parce que le risque, c'est qu'en fait, elles se mettent à avoir des idées qui sont peut-être bonnes, et c'est pas ça le problème. Mais c'est que si elles se mettent à avoir un style ou des idées qui sont bonnes, mais qui ne sont pas le type d'idées que toi, tu aurais eues, qui sont trop différentes, en fait, ça va créer, si tu veux, de la confusion pour tes clients qui, du coup, ne vont plus reconnaître ta marque et qui, du coup, la marque, c'est un objet qui a besoin d'avoir une certaine, une très forte cohérence même, une certaine droiture. Et si jamais il y a part un peu dans tous les sens, entre guillemets, parce que toi, tu écris avec un style et puis ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui écrit avec un style, je t'assure, c'est fou, mais je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises, les clients s'en rendent compte. Et s'ils s'en rendent compte, ils perdent un peu confiance parce qu'ils se disent « Ah, mais je ne comprends plus qui est cette marque, quoi. » En fait, une marque, c'est comme une personne, tu vois. C'est comme si quelqu'un était un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et du coup, ils perdent confiance parce qu'ils se disent, mais attends, je comprends pas, il y a des comportements différents. Et donc, c'est pour ça que je te dis que la clé sur ces sujets-là, et c'est pas facile, c'est de transmettre un maximum pour que les personnes que tu recrutes, et ça, quand t'y arrives, je te dis, c'est assez merveilleux. Et donc, t'as raison de vouloir t'y atteler le plus tôt possible, mais que ces personnes deviennent un peu ta continuité de telle sorte qu'ils puissent continuer à faire vivre la marque de la manière dont toi, tu l'aurais fait. Une fois de plus, sur d'autres sujets qui sont des sujets moins marketing, ça pose pas de problème que les gens apportent leur valeur et qu'ils le fassent à leur manière. Mais sur des sujets comme celui-ci, moi, je te dis, c'est essentiel que tu gardes ton ADN et que ça reste toi. Mmh.
Très bien. Bah oui, ça me paraît.
Donc, c'est pas de l'ego, c'est juste qu'en fait, c'est nécessaire pour tes clients, si tu veux.
Oui, non, c'est sûr.
Bon, bah, Clémentine, je pense que tu peux prendre plus confiance en toi parce qu'au final, tu vois, t'as les bons instincts, mais en réalité, écoute plus tes instincts. Je pense qu'ils t'emmènent dans la bonne direction. Visiblement, c'est le cas parce que c'est tes instincts qui, j'ai l'impression, ont fait que tu as créé cette entreprise, qu'elle a l'air de bien marcher. Donc, tu peux peut-être plus te faire confiance en toi. Et quand t'as un instinct qui est que tu sens que t'es arrivé à un moment où t'as besoin de recruter parce que t'as envie... d'avoir plus de temps et t'as envie d'avoir une équipe et tout ça, être légitime et de faire grandir ta marque. T'as raison de suivre cet instinct, mais suis aussi ton instinct quand il te dit que sur le marketing, tu peux pas faire n'importe quoi et que t'as besoin de quelqu'un qui va en fait faire comme toi tu faisais. Et t'as raison. C'est malheureusement, j'aurais aimé te dire, la vie est simple, tu peux recruter quelqu'un, tu lui délègues, tu lui donnes un peu de sous et en gros, tout va rouler. Malheureusement, c'est pas la vérité.
Non, mais tant mieux. Enfin, je suis très contente du coup d'avoir cette conversation parce que ça me permet aussi de voir comment approcher la chose. Je trouve pas forcément les bons mots, mais en tout cas, c'est très intéressant. Merci.
Bah, écoute, en tout cas, tiens-moi au courant. Ça m'intéresserait de savoir du coup qu'est-ce que tu décides de faire et puis comment ça se passe. Rappelle-moi avant qu'on se quitte du coup le nom de ta marque.
Alors, ça s'appelle Mikan, M-I-K-A-N, Mikan Bags, et c'est surtout, il y a un site internet, mais c'est surtout sur Instagram.
Mais on est d'accord que c'est pas disponible uniquement pour des Japonais. On peut commander.
C'est disponible partout, mais c'est. Oui, c'est disponible partout. Moi, je suis au Japon, donc les ateliers que je propose sont disponibles qu'au Japon, mais les pièces, ouais. Je peux les envoyer partout dans le monde, bien sûr. Ouais.
Ok, super. Bah, écoute, je vais jeter un coup d'œil. Bah, merci en tout cas pour ton temps, Clémentine.
Bah, merci à toi, merci beaucoup.
Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. J'ai pour ma part passé un très bon moment. Bah, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à diffuser cet épisode, bien sûr, autour de vous, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et j'en passe. Et puis pourquoi pas un peu de bouche à oreille, hein, de vive voix, ça marche aussi. Et puis surtout, si vous souhaitez postuler à une leçon, eh bien c'est très simple. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, Pauline Legno sur Instagram, sur LinkedIn, Pelegno sur Twitter. Et puis pourquoi pas avec... hello@paulinelegno.com. On répond à toutes vos questions. Merci à tous pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.